L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien toi-même.
Oui, ça va bien, merci. Je commencerai avec, on pourra revenir sur Mathieu tantôt si tu le veux, ou on parlera évidemment du millième match de Patrice Bergeron. Mais je commencerai quand même avec les Ducks d'Anaheim qui sont de passage au Centre Bell ce soir. Et j'aimerais que tu m'expliques, parce que je sais que tu as beaucoup de compétences dans le monde du sport, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi l'homme qui en cravate va se présenter derrière le banc des Ducks ce soir est encore Randy Carlyle, malgré le fait que cette équipe-là a gagné 2 de ses 18 derniers matchs.
c'est une question qui n'est pas facile à répondre parce que, rappelle-toi, il y a quoi, à peu près 3 semaines que Bob Murray était sorti de son mutisme, le DG, pour dire « Randy Carlyle est mon homme de confiance, il n'y aura pas de changement d'entraîneur ». Dans le merveilleux monde du sport, on sait qu'à peu près une fois sur deux, quand on mentionne ça, une semaine ou deux plus tard, le coach est dehors. Mais il semble y avoir un lien de confiance entre les deux hommes qui fait en sorte que je pense que Randy Carlyle va survivre au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais je vais être honnête sur une chose, Dan, aussi, je suis pas sûr que c'est simplement une question d'entraîneur-chef dans ce cas-là. On va s'entendre que quand tu perds, il y a eu une séquence de 12 défaites. On aurait pu certainement procéder à un changement puis voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher des joueurs qui fonctionnent moins bien avec l'étincelle d'un congédiement d'entraîneur, mais on l'a pas fait. Mais c'est un club qui est en perdition, les Ducks d'Anaheim. C'est un club qui, offensivement, en arrache énormément. Je regardais les statistiques avec, justement, les Ducks sont à Montréal ce soir. Il y a seulement 4 gars qui ont marqué 10 buts cette année. Puis il n'y a personne qui en a plus que 12 avec Silverberg qui est revenu au jeu il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup de difficultés à marquer des buts. Et je ne sais pas si tu as entendu, Dan, le commentaire de Jake Muzzin après la victoire des Leafs hier. Jake Muzzin, en parlant des Ducks, puis je pense qu'en parlant des Kings en même temps, a mentionné qu'il y a quelques gros clubs de l'Ouest qui devront comprendre que le hockey a changé,
oui,
et que c'est sur la vitesse qu'il faut maintenant axer notre équipe et non pas sur les gros bonhommes. Ça a marché une certaine époque, mais je pense que tu peux avoir aussi un beau mélange. Mais on dirait que autant les Kings que les Ducks vieillissent mal. On a des problèmes à peu près partout. Et là, depuis la pause du match des étoiles, John Gibson est perdu. Puis déjà que ça allait pas très bien avant la pause du match des étoiles, mais là, il est plus capable d'arrêter un ballon de plage. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font en sorte que cette équipe-là en arrache. Je suis pas convaincu qu'un changement d'entraîneur aurait un effet, une bombe comme on veut avoir. Mais je pense que si ça se replace pas, c'est peut-être durant la saison morte que Bob Murray va dire c'est assez, là, on tire la plug et on change des choses, mais t'es quand même pris avec quelques vétérans avec des gros contrats. C'est pas une organisation qui va être facile à reconstruire dans le cas des Ducks d'Anaheim.
Je te rejoins quand tu dis que c'est pas simplement de la faute de Carlyle, et je suis pas un partisan des congédiements de l'entraîneur. Par contre, le mandat de l'entraîneur-chef, c'est de faire gagner son équipe, et même s'ils avaient eu un pas pire début de saison, parce qu'ils sont seulement à 3 ou 4 points des séries, malgré 2 victoires en 18 matchs, donc ils ont dû faire de quoi de bien un peu avant. Puis je sais qu'ils ont manqué Corey Perry pendant 4 mois, mais Randy Carlyle, pour moi, c'est l'entraîneur de l'ancienne époque. C'est la même chose que John Tortorella, et je pense que Tortorella, qui a manqué les séries la première année où il est arrivé, puis il a perdu en première ronde les 2 dernières, moi, je fais un parallèle, François, entre Tortorella et Carlyle, 2 entraîneurs d'une autre époque qui ont gagné la Coupe Stanley. Les DG leur donnent, beaucoup plus de temps avant d'être congédié par rapport à Axtell à Philadelphie ou McLennan avec Edmonton en début de saison qui ont pris le bord parce qu'eux n'avaient jamais gagné la Coupe.
Ouais, je peux dire, en tout cas, dans le cas de Dave Axtell, lui, il doit se dire, écoute, tu m'aviez donné Carter Hart un petit peu plus tôt que prévu. Peut-être que moi aussi, je serais capable de gagner ou d'avoir des séquences de 8 victoires comme les Flyers présentement. Mais dans le cas des Ducks, j'ai hâte de voir comment on va procéder dans tout ça. Tu sais, dans le cas de Carlyle, faut pas oublier que c'est un gars qui a quand même eu beaucoup de succès où il est passé. Anaheim, il est parti pour mieux revenir. Puis, comme je te dis, je pense que la relation entre les deux, entre le DG et l'entraîneur-chef, va plus loin que la relation de collègues de travail. Et ça fait en sorte qu'on a une certaine patience, je pense. Puis là, t'sais, une quelque part où on se dit, il y a eu beaucoup de blessures. Puis tu as parlé de Perry. Il y a quelques joueurs qui ont manqué beaucoup de matchs. Mais, tu sais, il faut être honnête sur une chose. Dan, Ryan Getzlaff a ralenti investi énormément. Un gars comme Ryan Kesler, quand il est en santé, écoute, c'est devenu un poids pour cette équipe-là. Je regardais ses chiffres tantôt. Ryan Kesler a 6 points en 45 matchs cette saison. Ryan Getzlaff est le meilleur pointeur de l'équipe à 33 points. Puis tu as parlé de Corey Perry. C'est sûr que Perry, on va lui donner une chance parce qu'il vient juste de revenir puis il a pas l'air déjà en forme, mais... Et c'en est un autre qui, tu sais, son contrat est pesant. Puis le duo Getzlaff-Perry n'est vraiment, mais vraiment plus ce qu'il était. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on est capable de passer des contrats comme ça à un certain moment donné pour mieux se reconstruire? Parce que tu as quand même une base. Moi, je trouve toujours que, tu sais, que Montour, Lindholm, Fowler et compagnie, c'est quand même une base intéressante pour construire. John Gibson avait eu un début de saison intéressant, mais on a eu de la difficulté à marquer des buts. Puis à un moment donné, on s'est perdu complètement. Puis le pire, c'est que dans l'Ouest, la course est tellement serrée, il y a tellement peu de points qui se ramassent dans l'Ouest cette année, ouais, que les Ducks sont encore dans le coup. Ça, exact, c'est fascinant, ouais, surtout après une séquence comme celle qu'ils sont en train de vivre.
Le Canadien cherche un défenseur gaucher pour jouer avec Weber, entre autres, mais il pourrait jouer avec d'autres aussi. Cam Fowler revient dans les rumeurs. Il gagne 6,5 millions pour encore 6 ans. Est-ce que c'était Marc Bergevin? Puis ça coûte, mettons, Lekkonen puis un choix. Là. Tu sais, ça coûte pas si cher. Est-ce que tu es preneur?
Pas à ce prix-là, Dan. Je pense que si...
Le prix, tu veux dire le prix de son salaire ou le prix de ce que ça coûte pour l'avoir?
Le prix de son salaire. Parce okay, que le problème que tu as, évidemment, si tu es capable dans la transaction de passer le nom que tout le monde doit avoir en tête, c'est un Carl Osner ou quelque chose comme ça, c'est quasi impossible. Si tu me dis, je suis capable de te passer un gars qui a un contrat de 4-5 ans, qui en coûte 3-4 millions, là, je commence à y penser parce que le joueur en tant que tel m'intéresse, m'interpelle, puis les besoins du Canadien, il fit parfaitement dans ce que tu mentionnes. Oui. Mais je pense que les 6 ans, tu sais, Fowler n'est pas vieux, il y a 27 ans, je pense qu'il y a encore des très bonnes années. Mais à ce prix-là, ça fait pas de sens parce que tu te retrouverais avec une espèce de top 3, top 4 qui va te coûter 25 millions, tu sais, avec Weber, avec Petrie, avec un gars comme Fowler, puis tu sais, il faut même que tu ajoutes Osner dans la discussion parce qu'il coûte très cher. Puis tu sais, c'est pas, on s'entend que c'est pas un top 4 qui est très 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 relevé par rapport au reste de la Ligue nationale. Donc je pense que même si le prix n'était pas très élevé parce que les Ducks voudraient peut-être liquider les salaires, moi, je pense pas que je le ferais, mais encore là, Fowler à 27 ans, puis il y a des équipes qui sont mieux placées au niveau du plafond salarial, peut-être mieux placées pour aller plus loin en série, qui seraient certainement intéressées. Mais je pense que dans le cas du Canadien, si on veut aller s'améliorer d'ici le 25 février, moi, je crois encore que ça va être une question de profondeur, de profiter du fait que tu as deux choix de quatrième, deux choix de cinquième ronde. Mais je pense, parce que, écoute, Fowler, ce serait probablement un choix de première ronde, puis un bon jeune que tu devrais donner, ce qui fait pas vraiment de sens présentement pour le Canadien, même si on joue au-delà de nos attentes cette année, puis qu'on va probablement participer aux séries. Moi, je serais pas dans ce genre de derby-là pour Cam Fowler.
OK. Patrice Bergeron, ce soir à Boston, va jouer un millième match en carrière dans la Ligue nationale. Il les a tous joués avec les Bruins. Il est le cinquième joueur de les Bruins à jouer 1000 matchs avec les Bruins. Es-tu capable, dans les quatre autres, de m'en nommer deux autres?
Raymond Bourque?
Assurément, oui.
Tu me dis... Écoute, déjà, j'ai Rick Middleton dans la tête.
Non.
1000 matchs pour les Bruins.
C'est ça, la
Cam Neely non plus.
Parce qu'il avait été changé aux Canucks de Vancouver. C'est qu'il faut les avoir joués avec les Bruins, dans ma question.
OK, boy.
Donc,
non.
Raymond Bourque, 1518. On parle pas de 1041. Là. Il a pas passé à la ligne, juste un peu. 1518 avec les Bruins. Johnny Busick.
Oui.
1436. Don Sweeney.
Ah oui.
1052. Et Wayne Cashman, 1027.
Parce que Don Sweeney est un bon défenseur, mais dans l'ombre de Raymond Bourque très longtemps.
C'est ça. Puis il y aurait Chara. Faudrait qu'il re-signe l'an prochain. Je pense que c'est la dernière année du contrat de Zdeno Chara. Il a 926 matchs de jouer avec les Bruins.
Oui, puis je pense que dans le cas, Chara s'est rendu du année par année, là, mais il est encore capable de jouer. Puis je pense pas qu'il va aller jouer ailleurs qu'à Boston, à moins que les Bruins veulent pour lui. Mais il est encore capable de. Il est plus aussi dominant, mais il est encore capable d'intimider une autre équipe, certainement. Oui.
Moi, ce qui m'impressionne, Patrice Bergeron, qui a 33 ans, c'est pas qu'il joue 1000 matchs dans la Ligue nationale, parce que d'abord, c'est 1000 de plus que moi. Fait que je commencerai pas à juger qui a joué ça, puis c'est quoi le calibre du joueur. Sauf que, puis j'enlève rien au Donald Brashear ou à d'autres qui en ont joué 1000. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est 1000 matchs en faisant à peu près tout bien sur la patinoire.
Oui, puis Patrice Bergeron, écoute, va je pense, quand il va terminer sa carrière, moi, je pense qu'il va aboutir au temple de la renommée.
Ben oui.
C'est pas, tu sais, puis c'est pas une question de gars qui a fait 100 points par année. Jamais fait plus que 73 points dans une saison, mais la stabilité en attaque, t'as mentionné de tout faire sur une patinoire, c'est souvent lui qui a le rôle de couvrir le meilleur joueur de centre de l'autre côté. Je regardais quand même au niveau production, tu sais, ses millième match, il est rendu à 778 points, donc c'est pas impossible qu'il atteigne les 1000 points si sa carrière quand même dure encore quelques saisons. Presque un point par match, presque 100 points en série en carrière, il a gagné une Coupe Stanley. Puis ce qui est fascinant dans le cas de Patrice Bergeron, puis tu sais le développement de Bergeron était un peu spécial. Tu sais, il a joué une seule saison complète dans le hockey junior à Bathurst.
Ouais.
C'est le genre de gars, je pense, qu'il fallait que tu vois très souvent comme dépisteur pour dire qu'il tombe dans l'œil. Je pense pas que tu vas t'aller voir un vendredi soir les Titans d'Acadie Bathurst venir jouer à Québec, que tu tombais nécessairement en amour avec ce gars-là. Puis ça fait en sorte que il a quand même quoi, il est sorti 45e en deuxième ronde en 2003. Cette année-là, le Canadien avait deux choix, avait repêché André Costin au 10e rang et Corey Urquhart qui a joué avec les Remparts au 40e rang. Mais tu peux pas blâmer uniquement le Canadien. Là. Tout le monde est passé par-dessus Patrice Bergeron lors de la première ronde. Il y en a plusieurs qui ont levé le nez en deuxième ronde, puis ça s'avère, écoute, un choix de deuxième ronde qui est un ticket de loto que les Browns ont gagné. Mais c'est fascinant ce que Patrice Bergeron fait sur la patinoire offensivement, défensivement, leadership, je pense éthique de travail, ça doit être un rêve pour un coach d'avoir un gars comme ça sous la main. Puis je pense que dans l'histoire aussi, ce qui est le fun, c'est que tu sais, à un moment donné, on s'est demandé si Patrice Bergeron allait continuer à jouer au hockey avec les blessures, avec les commotions, fameuses mises en échec. Je pense que c'était Randy Jones avec les Flyers qui l'avait pincé en arrière du but. Puis c'est toutes sortes de choses comme ça qui font en sorte que l'histoire est fantastique. Tu connais-tu un gars plus humble que lui dans la Ligue nationale? Il y en a pas ben. Je pense que c'est vraiment, vraiment une très belle histoire. Puis présentement, le trio qu'il forme avec Marchand, avec Pasternak, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis il mérite amplement ce qui lui arrive. Puis je pense que c'est le genre de gars qui, avec le nombre de trophées Frank Selke, avec sa performance dans les grands moments, va vraiment, lorsqu'il va se retirer, on va vraiment se dire c'est ça a été un honneur de le voir jouer. Puis même si c'était pas un gars de 50 buts, même si c'était pas un gars de 100 points, c'est un gars qui était drôlement, drôlement efficace pour les Browns de Boston.
François, j'ai déjà quelques cheveux gris, comme tu le sais, mais il y en a d'autres qui étaient moins gris, qui sont devenus gris il y a à peu près 2 semaines. Quand à Montréal, on s'est mis à comparer Philippe Danault à Patrice Bergeron, puis on a dit Philippe Danault pour le trophée Selke, ça rabait de l'allure. Là, je me suis dit, encore Montréal, encore le 514 qui veut me faire monter en fou, puis faut que je perde patience, puis que je fasse des sorties pour les ramener sur terre. Il faudrait, pour éviter ce genre de comparaison boiteuse, il faudrait renommer le trophée Selke. Au lieu d'être meilleur attaquant défensif, faudrait que ce soit décerné au joueur le plus complet de la Ligue nationale. À ce moment-là, il n'y aura pas de danger pour Philippe Danault. OK? Puis, ce serait le genre de joueurs qu'ont été dans les dernières années. Jonathan Toews avec les Blackhawks, Andy Kopitar avec les Kings, Pavel Datsyuk avec les Red Wings et Patrice Bergeron avec les Bruins.
Puis, tu sais, les noms que tu nommes là, ce sont des gars qui, offensivement, contribuaient aussi. Puis, écoute, je veux rien enlever à Philippe Danault. Là, ça reste que c'est une des meilleures transactions de Marc Bergevin. C'est un excellent joueur de centre. Mais je pense que Philippe Danault est le prototype parfait dans une équipe standard de la Ligue nationale du joueur de centre de troisième trio. C'est-à-dire un gars de 40 points qui peut faire un très bon travail en désavantage numérique, peut même jouer contre la meilleure ligne de l'autre côté.
Oui.
Mais tu ne demanderas jamais à Philippe Danault de produire offensivement de la façon dont le fait Bergeron, puis de l'utiliser sur la première vague d'avantage numérique. Puis c'est pas pour dénier ou dénigrer un gars comme Danault. Il est efficace dans ce qu'il fait, mais je pense qu'on avait abusé un peu là, dans la comparaison. On voulait dire aux gens que défensivement, puis tu sais, pour les mises en jeu, puis pour la couverture des meilleurs joueurs, il faisait un bon travail. Mais je pense que ton explication est bonne pour dire, tu sais, meilleur attaquant défensif, oui, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une production offensive, puis ça fait en sorte que, comme tu mentionnais, c'est peut-être plus un joueur complet qu'on recherche dans cette description de trophée quand on parle du Frank Selke.
François, est-ce que Carter Hart, qui a seulement 20 ans, dans 3-4 ans, on va mettre son nom dans la catégorie des meilleurs gardiens de la Ligue?
Oh, moi, j'ai des réserves encore. J'ai des réserves. Je pense que, moi, je vais plutôt te dire que probablement que dans 3 ou 4 ans, on va se dire, c'est ce que les Flyers cherchaient depuis tellement longtemps. C'est fascinant, je veux dire, le nombre d'années depuis qu'on n'a pas eu un gardien numéro 1. Mais j'ai encore des grandes, grandes, grandes réserves par rapport à Carter Hart. Il a été très bon dans le hockey junior. a eu quand même des moments intéressants dans les rencontres internationales, mais je pense qu'il faut se garder quand même certaines réserves. Tu sais, je regardais dans la Ligue américaine avant qu'il soit rappelé, le pourcentage d'arrêt était tout juste au-dessus de 900. Là, présentement, tout fonctionne très, très bien. Puis écoute, je suis très content pour le jeune. Puis je suis content pour les Flyers aussi parce que je pense qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils avaient démontré en début de saison. Mais on va se garder une petite gêne aussi dans le cas de Carter Hart. Je pense qu'il va devenir un bon gardien, va donner de la stabilité avec cette équipe-là. Mais avant de parler de trophée Vézina ou de voir Hart amener les Flyers loin en série, j'ai besoin qu'il me donne encore une ou deux saisons convaincantes. Okay. Mais okay, ce que j'ai aimé, Dan, puis on s'en était parlé à un certain moment donné en se disant qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde est en santé? Ben, la bonne nouvelle, c'est que Hart a fait en sorte que, tu sais, il a décidé de répondre à la question par ses performances. T'sais, on peut pas, après 8 victoires, même si, peu importe qui est prêt, que ce soit Elliott, Newvert ou Stolarz ou les autres gardiens qu'on a utilisés, je pense qu'on s'est dit, on va le garder en haut. Puis là, il prouve pourquoi on peut le garder en haut. On est rendu quoi? À 5 points d'une participation des séries. Donc là-dessus, je pense qu'il a au moins prouvé qu'il était prêt pour la Ligue nationale. Mais on va se garder une petite gêne avant de parler de lui comme d'un gardien d'élite dans la Ligue nationale de hockey.
OK, une note de baseball avant de te laisser. Harper et Machado n'ont pas encore signé de contrat au 5 février. Est-ce que tu es surpris?
Oui et non. Écoute, le facteur important là-dedans, c'est souvent l'agent. Scott Boras est impliqué dans ces dossiers-là. Puis le problème, c'est que Scott Boras avait promis à ses clients, puis il y en a d'autres agents qui l'ont fait aussi, mais tu sais, pour Harper et Machado, on leur a fait miroiter 40 millions par année, puis de devenir les premiers joueurs de 400 millions. Puis là, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que le marché, moi, j'aime ce que je vois, honnêtement, du baseball majeur, parce qu'on n'a pas de plafond salarial. Je sais que les joueurs sont fâchés, je sais que l'association des joueurs est fâchée. Puis, à un moment donné, quand Harper va signer, je sais pas, Dan, ça va-tu être 250, 275, 300 millions, ils seront pas capables de faire pleurer les partisans là, en disant, tu sais, les gars n'ont pas eu la valeur qu'ils méritaient sur le marché. Les gars vont aller chercher 30, 32, 35 millions par année. Mais non, je suis pas surpris parce que les équipes se sont domptées. On s'entend, là, les contrats vont être astronomiques pour ces deux bonhommes-là quand même.
Mais François, je lisais la semaine dernière que des équipes parlent avec les agents de ces deux joueurs-là pour des contrats à court terme. Probablement que tu vas me dire que les joueurs sont pas intéressés à ça, mais j'ai lu qu'il y a des équipes qui avaient offert ou qui voulaient offrir des contrats à plus court terme.
Oui, puis c'est peut-être ce qui va arriver. Puis moi, je croyais surtout dans le cas de Bryce Harper qu'à un moment donné, il allait peut-être revenir pour un an, je sais pas, là, une espèce de 1 an, 30 millions avec les Nationals pour refaire un peu sa valeur. Mais tu te rends compte que, tu sais, Dan, il y en a des gars de 30, 35 millions là, dans le baseball majeur, des Stanton, des Kershaw et compagnie. Mais je pense que là, on est rendu au point où les équipes disent on peut pas, tu sais, donner 40, 45 millions par année à un joueur. Ça fait aucun bon sens, même si ce sont d'excellents joueurs. Fait que là, tu es rendu au stade où, tu sais, Bryce Harper, de ce qu'on a compris, Dan, c'est qu'au départ, les Nationals y ont mis plus de 300 millions sur la table, puis il a dit non, en étant convaincu qu'il allait chercher 400 quelque part d'autre. Puis on se rend compte qu'aussi bon que tu peux être, aussi, tu sais, autant une équipe comme les Phillies qui sont prêts à dépenser une tonne d'argent, il y a quand même une limite à ce que tu veux payer. Donc, tu sais, j'ai hâte de voir quand ça va se régler. Tu vas entendre des joueurs qui vont dire, bon, ils n'ont pas eu la valeur qu'ils devraient avoir. Mais de l'autre côté, que ce soit 25, 30, 35 millions, je pense qu'on ne fera pas pleurer personne. Mais Dan, il faut juste se dire une chose, c'est que tu as parlé de conflit de travail tantôt. Et le baseball majeur, il va peut-être avoir une chicane à l'horizon parce que là, on sent que la tension monte entre les propriétaires et les joueurs. Donc, ça va peut-être, ces deux dossiers-là, faire en sorte que la tension va monter encore et on se prépare peut-être pour un arrêt de travail d'ici 2 ans dans le baseball majeur.
Parfait. Gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.